17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver, grand témoin aujourd'hui avec Amadou Diawara. Bonjour, merci d'être là. Un cursus, un curriculum vitae impressionnant. On a envie de vous demander de quoi vous n'êtes pas président et qu'est-ce que vous ne faites pas, tellement on est estomaqué devant ce CV. Très actif, très jeune et de passage à Paris, et c'est un vrai plaisir que de vous recevoir. Alors, vous êtes président du cluster Digital Africa. J'ai l'impression que je parle chinois quand je dis ça, parce que la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un cluster. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est qu'un cluster et ce que c'est qu'un hub pour nos auditeurs et nos auditrices, et au moins qu'on commence à comprendre de quoi on va parler pendant cette émission. Et puis, vous êtes africain et vous êtes en première ligne de tous les grands chamboulements internationaux. Et notamment, on parlera du Mali, hein, le Mali qui a coupé le cordon ombilical et qui a même coupé des bras, des têtes. Enfin, il a tout coupé. Il reste. Alors, je sais pas ce qui reste au Mali, mais vous nous direz ce qui reste. Absolument. Donc, en tout cas, il reste vous, qui est très dynamique. Donc, tout d'abord, encore une fois, merci d'être là. D'abord, qu'est-ce qu'un cluster ? On a parlé de cluster pendant le Covid. Alors, les gens ont une mauvaise idée du cluster. C'est synonyme de confinement. Donc, essayez de... Voilà, dites-nous un petit peu.
Alors, merci, docteur Nasser. Et c'est quand même un honneur pour moi d'être ici. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir... comment vous continuez encore à donner de la parole à la diaspora, mais à l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. En tout cas, que Dieu vous préserve. Et ce qui est un cluster pour nous aujourd'hui, nous avons lancé le cluster Digital Africa, et qui est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. C'est-à-dire que l'idée est partie de discussions avec Kassi. Il était de passage au Mali à travers quelques amis caribéens.
Alors, Kassi, on va dire qui c'est, hein, parce
Kassi, que Kassi, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne en France, Kassi Matiala, et qui est le président d'honneur d'ailleurs du cluster. Et en échangeant avec un autre ami, Karim et Patrick, on s'est dit, bon, écoute, on va essayer de mettre quelque chose en place, mais il faut qu'on arrive à mettre un concentré de compétences. C'est pourquoi on l'a appelé cluster, c'est vraiment un concentré de compétences africaines, de la diaspora, de l'Afrique, mais aussi toutes les bonnes personnes qui pensent qu'ils ont un intérêt avec le développement de notre continent. Et on a lancé cette plateforme d'intelligence collective et de co-construction.
Donc, le cluster, c'est la mise en commun, la mise en convergence. Absolument. De compétences, de potentialités, d'atouts, de talents, c'est ça.
Et d'intelligence.
Et cette mise en commun, elle utilise un canal. C'est quoi ce canal ?
Alors, le canal qu'on a utilisé, c'est le numérique. On a voulu utiliser le numérique comme levier de développement et de croissance pour notre continent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et le cluster, on parle de plus de 42 000 membres de par le monde. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est...
Et vous êtes dans 37 pays, je crois.
On est dans 37 pays, et quand on a lancé le cluster, tout de suite, la première communauté qui a rejoint le cluster, c'était une forte communauté algérienne. Puis après, derrière, on se retrouve avec beaucoup de la diaspora en France, et on se retrouve avec tous les pays anglophones sont venus aussi se rajouter. Donc aujourd'hui, tout le monde est dans ce cluster-là. On réfléchit, on a différentes commissions, des groupes de réflexion. Et on a des personnalités fortes africaines de la diaspora. On a les GAFAM qui sont avec nous. On a beaucoup de ministres, que ce soit du Mali, du Sénégal, du Rwanda, de l'Algérie, qui sont dans le cluster avec nous, avec qui ils sont référents de commissions. Nous en avons 9 commissions. Nous avons un conseil scientifique et nous avons une gouvernance. Et cette gouvernance-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris chaque pays, on a pris une personnalité de ce pays-là pour être siégé au niveau de la gouvernance.
Alors, la personne qui émane de ce pays, vous insistez à ce qu'elle émane de la société civile.
Absolument.
Ah, dites-nous alors.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu que ces personnes-là soient de la société civile, mais ce soient des personnes qui, aujourd'hui, ont un intérêt avec la bonne gouvernance. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui manque ? C'est la liberté, c'est la démocratie, mais c'est surtout un problème de gouvernance et de leadership qui manque aujourd'hui. Et l'idée, c'était d'avoir des visions éclairées sur ce qui se passe, mais qu'est-ce qui vont être les services qu'on peut rendre à nos citoyens. Et on a voulu mettre ces intelligences ensemble. Aujourd'hui, la gouvernance, elle est faite de telle sorte qu'elle est là, et moi j'ai la chance d'être le plus jeune, et on m'a mis à la tête de ce cluster. Le cluster, ce qui est intéressant, c'est pas des personnes qui sont là pour des intérêts personnels, parce que la plupart, ils ont fait un bon chemin, et que vous connaissez comme KCM et bien d'autres personnes, comme Moussa Dekbali. Toutes ces personnes qui sont au niveau du cluster du Sud Africa, c'est des personnes qui font partie des plus fortunées en Afrique, mais derrière, pourquoi on a été le chercher, c'est pour dire que la corruption, tout ce qui tourne sur notre continent, en fait, ce sont des idées qu'on veut mettre à l'écart. Donc on a ramené ces personnes aujourd'hui qui ne sont pas intéressées, et souvent qui ne sont pas intéressées par la politique, mais qui ont leur avis à donner et qui pensent qu'ils peuvent impacter. Et la charge que moi j'ai aujourd'hui, c'est d'être le plus jeune, mais c'est aussi d'être le président de ce cluster. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire pour que le cluster soit un outil d'inclusivité, et mais surtout accessible à toutes nos populations, même en milieu rural? Nous avons développé des batteries de solutions pour répondre à des problématiques africaines. On a mis une université virtuelle africaine qui aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants en France, beaucoup d'enseignants aux États-Unis, à Alger, et partout on en a. On a la chance d'avoir Kamel.
Et d'ailleurs, vous avez mis en place ces universités virtuelles bien avant le Covid, bien avant les confinements et bien avant le distanciel.
Absolument.
Aujourd'hui,
c'est un succès.
Aujourd'hui, ça a l'air d'aller de soi. Absolument. De faire des enseignements, des universités à distance.
Absolument.
Mais vous avez innové en l'occurrence.
Ouais, on avait pensé à nos problématiques. On avait compris que, en l'occurrence, quand on prenait l'exemple du cas du Mali, par exemple, on avait 2000 écoles fermées suite à la crise multidimensionnelle que le Mali connaissait en termes de sécurité, de crise institutionnelle et tout ça. Mais on avait vu que dans pas mal de nos pays, il manque d'infrastructures. Et c'était compliqué, et la mobilité est de plus en plus compliquée dans nos pays. Il fallait penser à un système d'éducation. Nous savons que l'Afrique aujourd'hui, un des défis majeurs que nous avons, c'est l'éducation, c'est la formation. Et elle n'est pas de qualité, les formateurs ne sont pas à jour. Et vous le savez, tout comme moi, que la plupart des métiers de 2030 n'existent pas encore. Beaucoup vont disparaître, beaucoup vont s'adapter. Nous avons vu tout à l'heure les échanges qu'on a eus, la radio, elle n'a pas disparu, mais elle s'est adaptée aujourd'hui, et aujourd'hui elle est en train d'innover. Et on a Kodak qui a disparu, qui a fait faillite parce que les appareils téléphoniques sont arrivés. Donc,
d'ailleurs, aujourd'hui on parle même plus de radio, on parle de médias audio.
Exactement.
On y associe la radio, le podcast, le croisement de multimédia, etc. Donc les choses changent. Dans votre expérience, est-ce que vous vous êtes rendu compte que les gens émanant de la diaspora dont vous parlez, qu'elle soit diaspora africaine, d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest, de l'Est ou du Sud, ce sont des gens qui sont très portés sur le numérique et sur l'informatique et des talents incroyables, à tel point qu'on se les arrache dans le monde entier. Vous avez touché du doigt ça, cette espèce de propension des jeunes, en tout cas des jeunes africains, à occuper tous les médias tous les métiers de demain via l'informatique. Vous l'avez touché du doigt, ça?
Absolument. Moi-même, j'ai la chance d'être le CEO du Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, le CIRTIC du groupe FAMIB, qui est un centre où on est à plus d'une centaine d'ingénieurs. On fait de la programmation, c'est ça notre cœur de métier, on vit de cela. Et aujourd'hui, c'est ce centre qui finance d'ailleurs le cluster. Le cluster, aujourd'hui, il n'est pas financé par aucune organisation. Nous n'avons pas voulu avoir de partenaires parce que lorsqu'on nous finance, on va nous donner des idées, on va nous orienter vers ce qu'ils veulent prendre. Et la plupart de ces organisations qui sont dans nos pays africains, que ce soit l'État ou que ce soit les partenaires techniques et financiers, lorsqu'ils financent de telles activités, derrière, ils ont tendance à nous orienter. Donc, on a voulu le financer à travers notre politique de responsabilité sociétale au niveau du cluster. Mais derrière, on a mis nos intelligences. Chaque ingénieur que nous avons, il a l'obligation de consacrer son vendredi au développement des solutions qui seront mises gratuitement pour l'Afrique et pour l'utiliser. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui, je suis de Montreuil, j'ai grandi sur la diaspora malienne de France. Je suis rentré au Mali qu'en 2010. Et lorsque je suis rentré au Mali en 2010, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'était de créer une entreprise qui va permettre aujourd'hui de faire un retour de la diaspora, de venir participer au développement du pays, mais aussi de savoir que l'intelligence a changé aujourd'hui. Le savoir est en Afrique, de par la jeunesse et de par la croissance, elle est en Afrique, et l'avenir du monde, elle est en Afrique. Et nous pensons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manquait, c'était la formation. Donc, on a mis cette université virtuelle qui a été un succès. Et quand Covid-19 est venu, les gens disaient qu'on était fous, pourquoi une université, ça ne fonctionnera pas en ligne. Mais dès lors que le confinement est venu, ça a explosé. On parle de plus de 20 000 étudiants. Et on a donné une bourse à de 10 000 personnes en entrepreneuriat innovant, création de start-up. On allait chercher la diaspora partout où elle est. On allait chercher toutes les compétences aujourd'hui. Et les gens ont accepté de jouer le jeu. Ils donnent des cours. On a beaucoup d'universités, que ce soit en Tunisie, que ce soit à Alger, beaucoup d'universités, que ce soit au Canada, en France, qui viennent donner des cours gratuitement pour former cette nouvelle génération. Nous avons innové cela. C'est hier que j'ai vu que Facebook a lancé, à travers WhatsApp, un groupe pour faire la formation de l'entrepreneuriat. Mais nous l'avons lancé ça avant. Et c'est ça qui est intelligent aujourd'hui. Beaucoup d'initiatives émergent de l'Afrique. Mais merci à vous de nous donner la parole, parce que les gens ne le savent pas tout ce qu'on est en train de faire, et le fait que vous nous donnez la parole et que vous nous soutenez, vous nous sponsorisez, ça nous permet, nous, de parler largement à notre population. Et après ça, qu'est-ce qu'on a voulu comprendre? On a mis un réseau social qui était adapté à nos réalités culturelles, environnementales, mais à nos langues africaines, et tout de suite, ça a été magnifique.
Eh ben, on va rentrer en plus en détail dans un instant. On se retrouve sur Les Grands Témoins.
Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Surtout avec Amadou Diawara, le patron, le président du cluster Digital Africa. Trois mots importants, la diaspora, la société civile et l'intelligence artificielle. Alors, la mode est aux diasporas. On a vu le président Macron qui a réuni à la fois les diasporas méditerranéennes en décembre, novembre-décembre de chaque côté. Notamment, il a eu des problèmes pour faire venir tout le monde. Et puis, en février, pareil, une réunion avec, ce coup-ci avec les chefs d'État, etc. Donc, la diaspora est à la mode. Est-ce qu'elle a les moyens de postuler à ce que vous défendez? Les sociétés civiles, est-ce qu'elles sont libres de toute entache? Et puis, quand on parle de ces deux-là, tout de suite s'impose la mobilité. Et c'est la mobilité que vous défendez, puisque aujourd'hui, le numérique, c'est anti-frontière, c'est hors frontière. Tout le monde est sur le même starting block. L'Inde, le Mali, la France, la Suède, la Tchécoslovaquie ou le Costa Rica sont sur le même starting block. Il n'y a pas de pays sous-développés. Donc, on est tous, les pays sont tous sur le même départ. Donc, diaspora, société civile et mobilité. Comment vous arrivez à concilier ça? Comment vous arrivez à convaincre les gouvernances en place qu'il faut qu'ils laissent un petit peu de place à vous et qu'ils vous laissent de la place? Et puis, vis-à-vis de cette intelligence qu'on appelle artificielle, d'abord, est-ce que vous faites vôtre ce terme-là? Et est-ce que l'intelligence humaine n'est pas d'abord là pour créer de l'échange, du développement et de la valeur ajoutée? Donc, deux petites questions en une.
Bon, je pense que c'est aujourd'hui la diaspora, comme je l'ai dit, c'est un continent pour moi. Je considère la diaspora comme un continent à part, parce que lorsqu'on regarde la diaspora, on regarde dans nos pays, l'aide publique au développement, tous ses partenaires, l'apport de la diaspora est beaucoup plus importante. Donc à partir de là, elle a un poids, elle pèse beaucoup, mais surtout elle pèse aussi dans les compétences. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et une des avantages qu'on peut tirer de la diaspora, c'est d'abord le transfert de compétences. Vous savez, dans nos pays, nous avons beaucoup de ressources, on a beaucoup de potentialités, mais il nous manque souvent l'expertise. Et cette expertise-là, lorsqu'il vient de l'étranger, ça devient de la géopolitique, ça devient des intérêts. Donc, chaque pays, les pays n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Donc, à partir de là, ça devient des entreprises étrangères qui vont venir exploiter dans nos pays et repartir avec nos recherches. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique sur le continent africain qui est aujourd'hui de rester... nos ressources doivent rester chez nous et nos compétences doivent venir de l'intérieur, mais aussi la diaspora, parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, la diaspora a suffisamment de maturité, donc la nouvelle génération, elle est suffisamment formée, et aujourd'hui, elle doit participer au développement économique de notre continent.
Ah, maintenant, il faut de la mobilité. Des Erasmus africains.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit... on voit les problèmes de visa, les problèmes d'échange. Vous avez dit vous-même, les États sont des monstres froids. Ils sont pas prêts de laisser la place à des
diasporas. Ils n'ont plus le choix. Je crois que...
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces diasporas puissent aller et venir, avoir de la mobilité, et puis qu'elles puissent bien sûr mettre à profit leurs compétences?
Un des premiers défis, en tout cas pour moi, la réponse claire aujourd'hui, c'est une question de gouvernance. Lorsque nos gouvernants sont là, on a des reproches à leur faire et qu'ils ne peuvent pas taper sur la table, s'imposer, et cela pose des problèmes. Lorsqu'on a un pays comme la France, par exemple, je prends l'exemple, quand on veut venir en France et c'est très difficile pour un Africain de se déplacer pour venir en France, mais lorsque eux veulent partir, c'est très facile. Donc, à partir du moment où nous savons que...
Est-ce que la fracture numérique ne commence pas là?
Elle commence bien sûr là.
Elle commence là,
et justement, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous essayons de faire de toute sorte qu'il y a l'intelligence collective pour pouvoir faire de la co-construction, mais lorsque ensemble, on est plus fort, et aujourd'hui, il faut travailler sur des idées, il faut faire des propositions, et je pense que la crise en Ukraine a montré aujourd'hui toute la faiblesse de l'Occident, et a montré aujourd'hui l'avantage qu'il faut se retourner vers nos pays. Nous savons qu'aujourd'hui, le gaz algérien, que ce soit toutes ces ressources africaines, et on parle d'hydrogène, on parle de tout ce qu'on veut aujourd'hui comme ressources, on les a chez nous en Afrique. Au Mali, on a le lithium qui vient d'être découvert, il y a un besoin énorme de cela. Donc c'est aussi des choses qui nous permettent de mettre quelque chose sur la table, de dire que, écoutez, maintenant, la mobilité doit être là, la co-construction doit être là, et le co-développement doit être là aujourd'hui. C'est-à-dire, l'idée n'est plus de nous imposer aujourd'hui une vision, mais nous allons avoir une vision commune et nous allons défendre ensemble et réussir. Mais tout cela dépend d'une question de bonne gouvernance. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos pays, nous n'avons pas le gouvernement qu'il faut, et ça, il faut le dire. Et ils s'accrochent encore à rester sur un système qui ne fonctionne plus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le digital est en train de changer cela.
Le digital les gouvernances en place, voilà, vivent les sociétés civiles comme une menace. Une menace pour leur propre pouvoir, pour leur propre survie.
C'est ça qui est ridicule avec eux, parce qu'on a vu lorsqu'il y a les révolutions et tout de suite tout change à un moment donné. La société civile, elle est très forte aujourd'hui. Lorsqu'elle est soudée, elle peut faire basculer tout de suite. Et on a vu ce cas-là aujourd'hui en Tunisie, on a vu dans pas mal de pays, et au Mali, on l'a vu récemment. Donc, c'est de dire que lorsque la société civile, elle se met en mouvement, il n'y a plus rien à faire. C'est un rouleau compresseur qui est lancé. Maintenant, derrière, c'est que les gens sont conscients, donc ils essaient de ne pas détruire leur pays, ils essaient de faire attention, mais à un moment donné, en fait, ces gouvernants ne sont juste pas intelligents, parce qu'ils doivent savoir lorsqu'ils vont composer avec la société civile, parce qu'à la base, ils sont élus pour être au service de ces citoyens-là.
Mais Amadou Diawara, tous les observateurs et tous les chiffres, toutes les études vont dans le même sens. Depuis la crise sanitaire, la fracture numérique va en augmentant, le chômage va en augmentant en Afrique, notamment il touche en priorité les jeunes et les femmes. C'est compliqué.
Bon, c'est là où, en fait, moi, à chaque fois, je dis, dans chaque crise, il y a des opportunités. Et la crise à Covid-19, malheureusement, nous n'avons pas pu saisir. Ça a été un moment de rupture totale pour nous dans pas mal de choses. Notamment à travers nos relations avec l'étranger, mais à travers nos habitudes en Afrique, mais à travers aussi notre politique de nos gouvernants en Afrique. Covid-19 a aujourd'hui changé beaucoup de choses. Nous n'avons pas su profiter de cela suffisamment. Maintenant, je suis pas totalement d'accord avec le fait que ça crée beaucoup de chômage. Non, en fait, ça crée de nouveaux métiers. Et ça, en créant ces nouveaux métiers-là, il y a eu beaucoup de changements. Et ces changements-là, comme je l'ai dit, la plupart des métiers n'existent pas encore. Mais beaucoup de start-up ont émergé en Afrique et beaucoup de projets ont émergé en Afrique qui sont en train de continuer.
Mais à côté des start-up, toutes les entreprises des PMI, PME ont du mal à se numériser. Et tout un chantier de numérisation.
Et ça, c'est un travail de l'État qui manque. Ça, c'est l'État qui ne met pas assez d'infrastructures nécessaires aujourd'hui. Le rôle aujourd'hui des startups, c'est des conditions qu'il faut mettre pour que les citoyens puissent bénéficier, parce qu'il y a des missions régaliennes qui sont là. Malheureusement, le secteur privé ne veut pas le faire, surtout dans nos pays où il n'y a pas assez de libéralisme, c'est pas compliqué. Donc, beaucoup de choses sont encore gérées par l'État, qui oublie souvent sa mission première, qui était la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais aujourd'hui, c'est même à travers des entreprises privées qui sont là. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont le talent, beaucoup de bonnes personnes. Il y a beaucoup de think tanks qui sont en train d'émerger, qui sont en train de réfléchir, beaucoup de groupes de réflexion. Mais la question essentielle, c'est que vous l'avez dit vous-même, lorsqu'on essaie de pousser ces gens d'initiative, tout de suite, on est vu comme un concurrent, on est vu comme quelqu'un qui est contre le régime. Et souvent, c'est ça qui est difficile. Et
alors,
heureusement,
à l'intérieur, quelqu'un qui est contre le régime, et à l'extérieur, des gens qui ne comptent pas. C'est-à-dire que quand on regarde, ça c'est une question d'éducation à l'école, quand on regarde une carte du monde, l'Afrique pourrait contenir toute la planète. Or, on a un espèce de continent comme ça à côté, avec des pays, et on a l'Europe, on a ça. Alors que l'Afrique peut contenir tous les pays, et elle peut, et elle recèle en son sein toutes les richesses du monde. L'Afrique est victime de son image. Comment sortir de cette image, notamment véhiculée par l'Occident?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous, on essaie de faire au niveau du cluster digital africain. On a une tournée, d'ailleurs, en mois de janvier, février, je serai en Algérie, et puis après, on va continuer sur pas mal de pays. Je viens d'arriver de Berlin pour justement parler de ça au niveau du Parlement allemand, et les débats étaient très tendus. Je leur ai fait comprendre que l'image qu'on avait de l'Afrique, le petit Africain avec le gros ventre, le nez qui coule, que vous vendez pour lever des fonds et pour après que ces fonds vous reviennent dans vos pays, ça c'est fini, c'est résolu. Aujourd'hui, on a une Afrique dynamique, intelligente. Le 21e siècle est notre siècle. Et sans doute, c'est le siècle, en tout cas, pour l'Afrique. Et la croissance est là en Afrique, la jeunesse est là en Afrique, et qu'est-ce qui se passe? Les ressources sont en Afrique. Maintenant, la question c'est quoi? Quelle gouvernance il nous faut, nous, pour pouvoir prendre notre place? On est dans un monde de géopolitique mondialisée aujourd'hui, où l'avenir du monde se joue en trois parties, en tout cas, ce que je pense, en Ukraine, à Taïwan et au Mali, et en Afrique et au Mali.
Aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, avec votre cluster, avec le développement du numérique, vous dites, ben, finalement, on parle la même langue. C'est la langue numérique a supplanté la langue anglaise ou la langue française ou même toutes les langues. Absolument. Et aujourd'hui, vous dites, avec votre entreprise, nous parlons la même langue, donc mettez-nous autour de la table et on pourrait se mettre d'accord. On revient dans un instant justement pour parler de ce que vous abordez, à savoir ces conflits et ces positionnements dans ces trois parties.
Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM.
Oui, Amadou Diawara, qui est le président du cluster Digital Africa. Aujourd'hui, c'est une langue universelle, la langue de l'informatique. Mais l'Afrique est encore tributaire de la CDAO, d'une monnaie particulière. Elle a du mal un petit peu à trouver les voies de sa souveraineté et de son autonomie. On voit qu'aujourd'hui, la multilatéralité a volé en éclats. Ça a commencé avec Donald Trump qui s'est mis à faire des choses un peu à droite à gauche, à reconnaître des États, à en faire qu'à sa tête. On a vu la Hongrie, on a vu la Biélorussie, on a vu Erdogan, le président turc, on voit aujourd'hui Poutine avec l'Ukraine. Donc les gens remettent en cause un peu à la fois le traité de Versailles, voilà. Et finalement, le cluster digital africain, c'est pas une façon de revenir au B2B et de reconstruire une nouvelle forme de multilatéralité?
Absolument. Aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer. Donc, il y a un changement d'ordre mondial qui est là, qui est très clair. Et il faut l'admettre. Et c'est ce que l'Occident refuse d'admettre aujourd'hui.
Le numérique contre les murs.
Le numérique est là pour ça.
On a des murs partout, mais le numérique est contre les murs.
Le numérique contre les murs.
Les murs en Hongrie, les murs en Israël, les murs au Mexique, les murs.
Et le numérique est contre tout ça aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontières.
Non seulement il est contre, mais il les abat.
Il les abat totalement. Il les abat aujourd'hui. Et lorsque ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, à la seconde, on le sait au Mali, on le sait au Burkina. Donc, ce qui se passe dans le Sahel, on le sait. Même si on essaie de censurer quelque chose aujourd'hui, vous avez ce qui se passe en Afrique. On essaie de donner notre image de ce qui se passe chez nous. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis tout simplement de changer tout cela. Aujourd'hui, le numérique n'a pas de frontières. Et comme je le dis à chaque fois, c'est sans doute la meilleure ressource où il n'y a pas de géopolitique. Soit on coupe la tête à tous les citoyens du monde, soit en ce moment-là, le numérique, on ne peut rien faire, c'est lancé. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il faut le tenir, c'est qu'il y a un réveil aujourd'hui. Et il y a l'intelligence collective, il y a la co-construction. Lorsque nous avons lancé le cluster Digital Africa, et on s'est retrouvé tout simplement sur un groupe WhatsApp. On a atteint les 256 autorisés WhatsApp. On s'est dit, ah tiens, on va changer, on va aller sur Telegram. On arrive, on a dépassé les 20 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit, on va lancer notre propre réseau social qui va nous permettre de travailler dans nos langues africaines. Et de mettre toutes les langues africaines quand on a mis dessus, on s'est dit, on va mettre les langues occidentales, on va donner ce qui se passe, l'image chez nous en Afrique, pour que le monde puisse voir ce qui se passe. Donc, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on n'est pas surpris de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation qui est là depuis de longtemps. Je ne veux pas faire de prise de position. Mais quand on regarde ce qui se passe en Turquie, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Mali, il y a un changement qui est là, il y a une rupture qui est là, il y a un réveil qui est là, il y a une révolution qui est lancée. Je pense que nous, les Africains, ce qui est le plus important dans cela, c'est de savoir notre positionnement. Mais c'est de savoir que pendant ce 21e siècle qui est mouvementé, où beaucoup de choses vont changer, comment nous, les Africains, nous allons nous positionner?
Mais vous savez, l'image qui est reçue, c'est que le Mali, par exemple, s'exonère ou se coupe d'une tutelle, la tutelle française, pour ressombrer dans une autre tutelle, celle de l'URSS, avec le groupe Wagner qui est implanté, etc. Ou alors, dans d'autres pays en Afrique, comme le Burkina Faso, va ressombrer dans une autre tutelle, comme la Turquie ou le Maroc, etc. Donc, est-ce que l'Afrique est condamnée éternellement à se couper d'une tutelle pour retomber dans une autre, ou est-ce qu'il y a vraiment une voie émancipatrice comme on a pu peut-être la connaître au moment des indépendances des années 60? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît?
Non, je pense qu'en fait c'est pas un changement de tutelle. Vous savez, le Mali parle pas russe encore, donc pour moi tutelle c'est la domination.
Mais Wagner est bien implantée.
Elle est religieuse, elle est culturelle, elle est.
Mais la milice pro-Poutine est bien implantée. Elle a des immeubles, elle est dans la gouvernance.
Non, ça, je dirais pas ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse malienne qui est aux affaires et qui est consciente des enjeux géopolitiques et stratégiques, mais aussi des souverainetés de notre pays. Et cette jeunesse aujourd'hui, elle est libre d'avoir le partenaire de son choix. Vous savez, lorsqu'on parle, moi j'étais avec en Allemagne, on me parlait de ce qui se passe, on parlait de rapport le Mali avec la Russie, mais en même temps, il s'est chauffé au gaz russe. Alors les Allemands. Donc vous voyez avec tout ce qui s'est passé en Allemagne, le mur de Berlin, toutes ces histoires de machin. Donc vous voyez le problème, c'est qu'on a deux poids deux mesures. D'un côté tout le monde compose avec la Russie et de l'autre côté on nous dit nous de pas faire affaire. C'est comme la Chine aujourd'hui. Semaine dernière je voyais les Américains qui interdisaient tous les réseaux sociaux chinois, etc. Mais en même temps ils consomment toujours chinois. Donc la question aujourd'hui c'est quoi? C'est que les pays ont des intérêts et n'ont pas d'amis. Et bien sûr je pense qu'on n'est pas question de tutelle, mais on a voulu avoir notre souveraineté et pour nous. Et la souveraineté, elle est capitale pour notre pays. Un pays à 1 242 000 km², c'est un hub naturel. On a 7 frontières. et on a 3000 km avec l'Algérie, et on a, c'est un pays immense avec beaucoup de ressources que nous partageons avec l'Algérie et le Niger, donc cette zone-là est très riche. Aujourd'hui, le Mali n'est que victime de sa richesse aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les ressources que nous disposons aujourd'hui, c'est ça notre malheur.
Alors, que pensez-vous de ceux qui veulent faire, chacun veut faire son Internet, son Google, son Facebook,
C'est la souveraineté numérique, et ça c'est essentiel. Aujourd'hui, vous savez, on est en plein troisième.
On va en Iran, on va en Chine, chacun veut faire son propre réseau social, son propre Google.
On est en plein troisième guerre mondiale, et je pense que les gens se rendent pas compte, ce n'est plus dans les tranchées comme en Normandie, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, elle est bactériologique. Elle est bactériologique, elle a été gagnée par la Chine, sur ce plan-là. Et aujourd'hui, elle est militaire, et la Russie
est dans l'intelligence artificielle, dans l'espionnage industriel.
Dans l'espionnage industriel, elle est gagnée par les Chinois. Maintenant, la Russie est en train de le faire sur le plan militaire, et est en train de voir son positionnement. Et aujourd'hui, sauf que derrière, il y a deux nouvelles puissances qui émergent, qui sont l'Iran, qui sont la Turquie et l'Inde, sont en train d'émerger aussi. Aujourd'hui, l'Afrique, aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'un pays, c'est pas plusieurs pays pour moi. L'Afrique, elle doit être unie. Lorsqu'on est unie, on devient beaucoup plus puissant que tous ces pays, toutes ces nations-là. Donc, la puissance de l'Afrique, c'est vraiment ensemble qu'on se mette ensemble. C'est ce que nous essayons de faire au cluster.
Alors, en une minute, je voudrais qu'on revienne au cluster Digital Africa. Vous avez insisté sur la formation des jeunes, sur les étudiantes, sur les universités virtuelles. Quid de votre formation, où est-ce que vous en êtes? Et deux, sur les universités diplômantes. Quelle est votre capacité à diplômer, justement, vos étudiants?
Alors, vous savez, comme je l'ai dit, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des intérêts. Et lorsque nous savons que certaines compétences n'existent pas chez nous, on a fait deux propositions. La première, c'était d'offrir une bourse à 10 000 jeunes africains, que ce soit lusophones, francophones, arabophones et anglophones. Les 10 000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat innovant, création de start-up. Parce qu'il faudra qu'il y ait un secteur privé dynamique entre elles. Et derrière, ça a été gratuit et ça a été offert. Et derrière, après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher des partenaires avec 500 écoles, alors avec la FEDE, qui est la Fédération des écoles européennes, pour dire qu'attention, nous ne voulons plus que nos enfants partent à l'immigration étudier chez vous, parce que c'est de vendre l'intelligence. On veut éviter les fuites de cerveau, mais on veut que les gens étudient depuis chez nous en Afrique, dans vos universités, avec vos diplômes, pour qu'ils participent au développement de notre continent. Aujourd'hui, on donne des formations diplômantes, que ce soit des masters, des bachelors, des MBA, et qui sont aujourd'hui vendus à 12 000, 15 000 euros en Europe. Aujourd'hui, on les vend à 1 000 euros en Afrique de façon symbolique et sponsorisés par notre centre d'innovation de recherche technologique administrative. Nous venons même de lancer une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, parce qu'à un moment donné, c'était pas difficile, c'était simple. On a été victime de notre succès, donc les gens ont explosé de partout. Donc mon groupe seul ne pourra pas financer. Nous venons lancer une campagne de financement participatif en ligne, tout simplement avec le digital.
On aura l'occasion en tout cas de revenir sur cet appel.
Absolument.
Vous êtes le bienvenu sur l'antenne.
Absolument.
Un vrai plaisir que de vous avoir reçu. Et on va continuer dans le plaisir en partageant un vrai moment de bonheur avec Mori Kanté. Au revoir, Diawara.
Merci infiniment et merci pour cet honneur avec la chanson aussi qui clôture cela.
Mori Kanté, un hymne international pour l'Afrique.
Sumbani fanani pekaninalu ulumeni yamanalu kono Sumbani fanani pekaninalu ulumeni dunyani kono Imae ule nani mulukela tamfadini dunyatia kumamanyi ya kumamanyi kumamanyi Sumbani fanani bekani nalu olu menuye jamana lukono imae ule nani molukila tamfatini uduyatiyala kumamanyi ya kumamanyi kumamanyi Thank you.
Iba kuma kule kuma kujo bima kule jadani. Ibida abu kuma ro kule tayi kono. Ana sabu kete kule ifo abudi bani kono. Ni na na fo kuite. Nte kuru te dogure di mani kaka no.
Yese kafu mholul te ma kuite. Ikile mana fuire ma lulu kuite. Mholla wako fabra do fakar sabaro.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.